Voilà, donc pour frotter la théorie analytique et la littérature, la création littéraire, on ne pouvait trouver meilleur
Si, si, on pouvait.
cheval que
Si,
toi.
si. Si, si. Non, non,
Je
il y a de
parle de
meilleures
cheval
montures,
parce
c'est
qu'il y
sûr.
a un centre d'équitation
Si,
juste à
si.
côté. Donc... Voilà. Donc je te laisse la parole. Le principe que tu as souhaité, c'est une conférence libre. C'est-à-dire qu'en gros, une conférence débat, chacun peut t'interrompre à
Voilà.
tout moment pour soit des précisions, soit des questions ou des élucidations sur tel aspect que tu évoques à tel ou tel moment.
Oui, parce que là, je me suis proposé donc de traiter de ce thème-là, la littérature, un pas d'avance sur la psychanalyse avec un point d'interrogation. Et je me disais que je ne voulais pas faire une conférence, comme j'ai l'habitude de faire, on lit son texte, et ensuite on répond à des questions avec un échange plus ou moins vivace, pour ne pas dire morne, avec l'Assemblée. Là, je préférerais qu'on puisse dialoguer d'emblée.
Alors, il y a beaucoup de gens qui, par mail, ne pouvant pas forcément venir, ont dit, mais il faut supprimer le point d'interrogation.
On m'a déjà répondu, on m'a déjà répondu. On m'a répondu. Non pas un pas, mais un monde. Pour le moins? D'accord. Donc je lève le suspense. Je réponds oui tout de suite à la question que je me suis posée. Voilà.
Ah ben on s'en va
Mais
alors.
je vais essayer de le montrer parce que la chose n'est pas évidente.
Oui,
Alors,
oui, oui.
je me suis proposé, puisque je ne sais pas à qui je parle, de faire un parcours relativement historique des rapports de Freud et de Lacan à la littérature. Puisqu'effectivement, tu l'as rappelé, je suis lacanien, je vais parler de la psychanalyse lacanienne. Tu as évoqué l'histoire de la psychanalyse récente, puisque tu as évoqué l'école de la cause freudienne. J'en faisais partie à l'époque, et en 1998, il y a eu une scission, parce que les gens se disputent, puis n'arrêtent pas de faire des scissions. Heureusement, dans notre milieu, on ne connaît pas ça, le milieu culturel.
Oh,
Ça n'existe pas.
Et j'allais plutôt prendre l'exemple de la poésie aujourd'hui contemporaine. C'est tragique parce que la poésie contemporaine, c'est une guerre entre chapelles, hein,
Oui.
par exemple.
Alors, ce qui me plaît, c'est qu'ici, on décloisonne un petit peu
Voilà.
les savoirs, les registres, les disciplines. Et je vais essayer donc de prouver ce que j'ai avancé sous forme de titre-réponse, que oui, la littérature a bien un pas d'avance, un monde au moins par rapport à la théorie analytique. Mais ça ne va pas de soi, puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais Freud est d'abord d'une formation médicale, il naît en 1856, il est médecin, il va d'abord, une fois qu'il a terminé ses travaux de neurologie, il va continuer à faire de la recherche, il va disséquer des cerveaux humains, bien sûr sur des cadavres, hein, et ensuite, ses dernières études, je crois qu'elles portent sur le nerf optique de l'anguille. Donc vous voyez des choses très excitantes et qui sont bien bien loin de notre domaine. Lacan, lui, a une formation classique, il naît en 1901, formation médicale classique, comme psychiatre, et il est féru de philosophie. Il passe son temps à suivre des cours dans sa jeunesse et sa vie de jeune adulte dans différents endroits où il reçoit l'instruction de plus d'un maître en philosophie. Et c'est vrai que
Il
quand
avait
on...
côtoyé Emmanuel Lévinas, hein, par exemple, dans le cercle d'Orsay.
Et donc quand on suit son œuvre, parce que bon, je fais partie de ceux qui le lisent attentivement, il y en a quelques autres dans cette pièce, on est parfois écrasé par le savoir philosophique
De la
de Lacan. Et pourtant, c'est ce que je vais essayer de montrer, et pourtant, c'est ailleurs, il me semble, qu'il s'est également nourri pour la question qui nous intéresse, à savoir la psychanalyse. Donc je reviens à Freud. La naissance de la psychanalyse avec Freud, elle est déjà marquée par une histoire de lettres. Non pas de lettres modernes, de littérature, mais un échange épistolaire qu'il a eu avec un ami, Wilhelm Fliess. Fliess qui est médecin otorhino à Berlin. Freud, à cette époque-là, est proche de la quarantaine, il a 31 ans par là, quand il commence cet échange épistolaire avec Fliess, qui va durer à peu près 14 ans. Et il se voit très peu, et entre eux se noue une amitié extrêmement forte. Il faut dire que tous les deux sont dans des modes de vie assez singuliers. Freud est un jeune homme très névrosé, il souffre de migraines, de maux gastriques, de neurasthénie. Et son ami Fliss lui donne parfois des conseils tout à fait farfelus, mais il est dans une adoration tellement forte pour cet homme-là qu'il ne voit pas ce qu'il peut y avoir de délirant chez Fliss. Fliss, pour aller très vite, hein, imaginez qu'on pouvait établir des liens tout à fait scientifiques entre les organes génitaux féminins et le nez. Et là-dessus, il aborde des théories complètement farfelues. Freud l'encourage, il espère que pour lui, un jour, il arrivera à prouver ses résultats et à obtenir une reconnaissance mondiale. Lui-même, Freud, en 1895, commence à avoir un aperçu de ce que peut être la fonction du rêve, et il commence à avoir l'idée que le rêve est sans doute la façon dont l'inconscient tente de faire entendre la nature d'un désir en le transfigurant. Voilà. Le rêve serait la réalisation d'un désir, la réalisation déguisée d'un désir inconscient. Mais en même temps, il est très marqué par ce qu'il croit être une découverte qu'il appelle ses neurotica. Ses neurotica, c'est une théorie qu'il pense pouvoir prouver, à savoir que tous les troubles nerveux, puisqu'il a laissé tomber le nerf optique de l'anguille, il s'intéresse donc aux troubles nerveux et à l'hystérie, il pense prouver que tous les troubles nerveux seraient dus à des séductions ou des attentats sexuels réels survenus pour chacun des sujets dont il s'occupe. Et il forge une psychothérapie qui pousse le sujet à se ressouvenir de ces événements traumatiques, et à partir de là, ils doivent guérir. Or, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il constate que sa théorie n'est pas valable, qu'il faudrait accuser la plupart des parents d'actes pervers sur leurs enfants, et du coup, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette conception théorique des troubles nerveux, et il commence à déprimer profondément, malgré les petits coups de cocaïne qu'il peut prendre de temps en temps pour se remonter le moral. Et donc, on retrouve dans ces lettres adressées à Fliss, l'annonce tout à fait solennelle, hein, le 21 septembre 1897, où il lui dit « Je ne crois plus à mes neurotica ». Et à partir de là, il va très mal, et il recommence à s'intéresser aux rêves, et à ses propres rêves, puisqu'il est en train de rédiger les brouillons de ce que deviendra l'interprétation des rêves, publiée en 1910. 1910 ? Non, 1900. 1900 tout court. Et il écrit à son ami « C'est dommage qu'on ne puisse pas vivre de l'interprétation des rêves, parce que c'est tout ce qui me reste. » En fait, c'est un peu programmatique, puisque c'est ce qui va se passer. Donc, dans cette période où il est vraiment complètement désappointé, il va mettre...
Quid des gens qui ne se rappellent pas de leur rêve ?
Il y en a ! Alors, il peut y avoir deux choses. Parfois, moi, je reçois des gens en analyse, et je leur dis, à partir d'aujourd'hui, vous me raconterez les rêves si vous en faites. Et souvent, j'entends, mais j'en fais jamais. Mais après, dans le travail dans le transfert de savoir, parfois, ils se mettent à rêver. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, les autres qui n'en font pas du tout, ça, je ne sais pas quoi en dire. Ils n'en ont peut-être pas besoin.
Ils en font tous 4 ou 5 fois par nuit. Ils ne s'en souviennent pas. Ils se réveillent. Donc, le souvenir n'est pas là, mais il faut être éveillé pendant déjà une minute et demie pour se souvenir qu'on s'est éveillé.
Mais il peut y avoir des périodes plus ou moins longues dans la vie d'un individu où on ne se rappelle pas de ses rêves.
Oui, tout à fait.
Coup des gens, mais en même temps, c'est évolutif, en fait.
C'est ce que je disais tout à l'heure. Parfois, je reçois des gens qui me disent « Moi, je ne rêve pas, ça fait des années que je ne rêve pas », et puis qui se mettent à faire des rêves. Voilà. Il faut attention à... Donc, sans doute qu'on doit... On doit les oublier, ces rêves, quand on n'en fait pas. Donc je termine avec la correspondance de Freud, avec une lettre du 15 octobre, où là il est en train de s'occuper de ses propres rêves et de faire ce qu'il appelle à ce moment-là son auto-analyse. Puisqu'il n'y a pas de psychanalyste, il ne peut pas analyser ses rêves par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, Donc il essaie de s'auto-analyser comme il le peut. En fait, ce n'est pas une auto-analyse puisqu'il écrit à quelqu'un. Il y a quand même quelqu'un d'autre là à qui il va relater le récit de ses rêves, les interprétations qu'il peut faire. Donc c'est une auto qui n'est pas tout à fait auto. Et donc il écrit le 15 octobre 1897 quelque chose d'absolument nouveau. Nouveau et qui va avoir des conséquences profondes. Chez moi aussi, c'est toujours à Flis, hein, donc il écrit, chez moi aussi j'ai trouvé le sentiment amoureux pour la mère et la jalousie envers le père. Et je les considère maintenant comme un événement général de la prime enfance, même si cela n'est pas toujours aussi précoce que chez les enfants rendus hystériques. Entre parenthèses, tout comme le roman des origines dans la paranoïa, héros, fondateur de religion, ferme la parenthèse. S'il en est ainsi, on comprend la force saisissante d'Édipe Roy. Donc voilà, la toute première fois où Freud émet l'hypothèse de ce qui va devenir cette notion extrêmement populaire et aliénante même, je vais dire du complexe d'Édipe, c'est d'abord à son propre endroit qu'il le fait, mais si je l'ai retenu là aujourd'hui, cette lettre à Flis, c'est parce que d'emblée, il fait référence à un auteur, à la tragédie de Sophocle, Édipe Roy. Et un petit peu plus loin, dans cette même lettre, autre événement qui ancre la naissance de la psychanalyse à la littérature, il fait référence à Shakespeare et au drame d'Hamlet, prince de Danemark, en disant que là, l'inconscient de l'auteur a rencontré l'inconscient de son personnage. Puisque vous connaissez la tragédie d'Hamlet, c'est l'histoire d'un jeune homme, qui prince du Danemark, qui rencontre le fantôme de son père, qui vient de mourir, et ce fantôme lui dit « Voilà, Hamlet, il faut que tu me venges parce que ton oncle, qui vient d'épouser ta mère, en fait, il m'a tué et il couche avec. » Et alors, on se retrouve dans ce cas de figure tout à fait énigmatique, c'est que toute la pièce nous montre l'hésitation d'Hamlet. Pourquoi est-ce qu'il n'agit pas? Pourquoi est-ce qu'il ne venge pas? Dans toutes les bonnes tragédies, en principe, quand on dit au gosse d'aller à la bataille, il y va. Mais lui, il hésite, il est tourmenté. Alors pendant 3 siècles, 4 siècles, il y a eu des tas de commentaires plus ou moins savants sur l'hésitation d'Hamlet. Et là, Freud nous dit qu'en fait, son hésitation s'explique par le fait que Hamlet a reconnu dans son oncle celui qui a mis en acte le désir de tuer le père et de coucher avec la mère. Et c'est pour ça qu'il hésite. Et quand on suit l'analyse pas à pas de cette pièce avec cette clé-là, effectivement, ça parle. Donc vous voyez, d'emblée, la naissance de la psychanalyse, au moment où Freud considère que les troubles nerveux ne sont pas provoqués par provoqués par des agressions sexuelles réelles, il découvre pour lui-même le complexe d'Édipe, mais il le découvre en se rappelant ses lectures de classiques, c'est un humaniste, c'est-à-dire Édipe Roy et l'Hamlet de Shakespeare. Et à partir de là, il y a comme une sorte de collusion entre sa découverte plus ancienne concernant le désir dans le rêve, comme réalisation déguisée d'un désir inconscient, et la création littéraire. Puisqu'il ne peut plus expliquer les troubles nerveux par des événements réels, il va considérer que ce qui génère ces troubles nerveux chez ses patients, ce ne sont pas des événements réels, je me répète, pardon, mais des fantasmes, c'est-à-dire une création imaginaire. Il faut entendre par fantasme, là où on en est, dans l'histoire de la psychanalyse, comme des fictions imaginaires fomentées par on va dire l'inconscient du sujet. Alors ma question, la première question que je me suis posée en rassemblant ces faits, c'est mais est-ce que Freud aurait pu reconnaître quelque chose qu'il a nommé pour lui-même vœu oedipien s'il n'avait pas un jour rencontré la lecture d'Édipe Roy et d'Hamlet? On ne peut pas répondre. Mais quand même, on peut se dire qu'il aura fallu cette connaissance livresque. Parce qu'après, c'est vrai que ce mythe, ce complexe d'Édipe, c'est venu aliéner la société. Et pas que les analystes. Hein. Quand je travaillais en pédopsychiatrie, que je recevais en consultation des mamans en difficulté avec leur enfant, il m'est arrivé plus d'une fois d'entendre une mère me dire oh, le petit, je ne sais pas ce qu'il me fait, il ne me lâche plus. La coiffeuse, elle m'a dit mais il ne te ferait pas un petit Édipe, lui? C'est vraiment passé. Mais oui. Eh oui, il me fait un Édipe comme il me fait les oreillons. On conçoit que Freud, alors, avec cet appareil, cette découverte, il ait voulu retrouver dans d'autres chefs-d'œuvre la confirmation de ses théories. Notamment, par exemple, en 1906, lorsqu'il lit la Gradiva, fantaisie pompéienne de Jensen. C'est l'histoire d'un jeune homme scientifique, archéologue. C'est peut-être pour ça que Freud s'est intéressé à cette petite nouvelle, cette petite fantaisie pompéienne, comme elle s'intitule, parce que Freud lui-même est passionné d'archéologie. C'est vraiment... Je crois même qu'il a fait de la contrebande. À l'époque, c'était moins réglementé qu'aujourd'hui.
Comme beaucoup d'Allemands, oui.
Comme beaucoup d'Allemands. Et donc, il s'intéresse à cette nouvelle qui décrit la mésaventure d'un jeune homme qui va se passionner pour une fresque en plâtre. Il va tomber amoureux de la jeune femme dont la démarche est représentée sur une fresque qui aurait été prélevée à Pompéi après la catastrophe qu'on connaît. Et pourquoi est-ce qu'il tombe amoureux de cette femme qui n'existe pas et qu'il va finir par rencontrer? Parce qu'en fait, il fuit, il est timide peut-être, il fuit cet amour qu'il éprouvait pour adolescent, pour sa voisine, Zoé. Et finalement, au travers de la nouvelle, on découvre que ce fantôme vers lequel qu'il pourchasse en allant jusqu'à Pompéi, en fait, c'est Zoé qu'il va retrouver, qu'il va pouvoir épouser. Et donc, là... Ce que fait Freud, c'est qu'il va demander, il va écrire à l'auteur de cette nouvelle, Jensen, pour lui demander si lui-même, quand il était adolescent, il a vécu une histoire d'amour contrariée. Et l'autre le remballe, parce qu'il dit non, c'est une création, c'est une pure création. Mais vous voyez comment Freud avait l'idée de la façon dont ça fonctionnait, les créations littéraires. Il pensait que vraiment, c'était absolument... à chaque fois l'inconscient de l'auteur qui se manifestait. Avec Le Marchand de Venise de Shakespeare, dont il livre sa lecture dans un petit texte intitulé « Le choix des trois coffrets » en 1913, Freud aborde la question du prix qu'il convient de payer quand on veut atteindre l'objet de son désir. Je passe « L'homme au sable » de Hoffmann, un conte fantastique, qui sert beaucoup à Freud, notamment dans une étude qu'on cite très souvent, c'est l'inquiétante étrangeté. Dans l'inquiétante étrangeté, cette petite étude sur ce sentiment d'inquiétante étrangeté, il va faire une référence assez déployée sur l'homme au sable. L'homme au sable, c'est le récit d'un jeune homme, un petit peu comme le scientifique dans la Gradiva, qui va finalement tomber amoureux, non pas d'un être réel, il va se détourner de sa fiancée pour tomber amoureux d'un automate. Et Freud fait une analyse comme ça en disant qu'en fin de compte, il veut prendre la place de l'objet sexuel du père. Parce que dans le complexe d'Édipe, on a toujours l'image très schématique, le garçon, la mère. Ben non, le garçon, le père aussi. Quoi. Ça crée des catastrophes. Donc je passe. Et l'autre point sur lequel il s'est arrêté, qu'il a beaucoup intrigué, c'est la question du désir, la question du désir de savoir. Et là, il a parcouru de long en large les carnets de Léonard de Vinci dans une étude qui lui a permis de pousser son investigation de la sublimation. Voilà, il cherche à comprendre la nature de la création artistique, la sublimation, mais pour conclure en définitive dans ce texte que les psychanalystes n'arriveront pas à l'attraper, ne rêveront pas à résoudre l'énigme de la création. La sublimation reste énigmatique. Voilà ce petit parcours juste pour vous montrer qu'effectivement, si au début il avait des idées très arrêtées, comme avec la Gradiva, c'est sûrement l'inconscient de l'auteur qui parle. Vers la fin de sa vie, c'est pas vers la fin de sa vie, mais en 28, en 1919 plutôt, il tempère cette idée que la psychanalyse peut attraper les ressorts complets de la création. Il y a une part d'insondable là-dedans. Je passe. C'est pas une liste exhaustive des références de Freud à la littérature, parce que Il a une culture humaniste très très grande et ses références à la littérature sont innombrables. On peut mentionner aussi les relations épistolaires qu'il a entretenues avec des écrivains comme Romain Rolland, Arnold Zweig, Stefan Zweig, Thomas Mann, George Wells et quelques autres auteurs de langue germanique dont Goethe. Voilà. Et dans le discours rédigé en 1830, puisqu'il a obtenu le prix Goethe en 1830, si on lit ce petit texte de remerciement, on constate la vastitude de sa culture classique, mais aussi ce qu'il va promouvoir, à savoir la nécessité pour la psychanalyse de s'attacher à occuper une place aussi importante que les biographies, pour contribuer à faire comprendre la grandeur des œuvres. Malgré lui, Freud a ouvert la voie à la psychobiographie. Je dis bien malgré lui, en défendant une place semblable à celle du biographe pour les psychanalystes. Il y a un autre point que j'ai oublié de noter, c'est que par exemple en 1933, il meurt en 1938. On l'a dit, on l'a répété, les féministes ont accentué le fait. Freud et la féminité, ça a été compliqué. Il a pensé faire des découvertes définitives, et puis s'est aperçu que ça ne collait pas. Et puis en définitive, en 1933, dans une conférence qui s'intitule « La féminité », à la fin de cette conférence, qui n'est pas une conférence, c'est un texte écrit, il ne pouvait pas parler, donc s'il avait un cancer de la mâchoire, il fumait trop, il n'a pas pu s'empêcher de fumer jusqu'à la fin de sa vie. Et il n'était pas tout à fait un être raisonnable, c'est ce qui me plaît chez les humains, c'est qu'ils ne sont pas raisonnables. Et donc à la fin de cette conférence sur la féminité, alors qu'il pense, quoi, qu'on a le sentiment qu'il a tout dit, ce qu'il pouvait en dire, il conclut en disant mais que non, il y a un continent noir qui échappe à l'emprise de la psychanalyse, à l'emprise épistémique, pas l'emprise épistémique, au niveau du savoir, et que ben, peut-être il faut se tourner vers son expérience personnelle, mais aussi aller chercher du côté des poètes. C'est eux qui pourront peut-être éclairer la psychanalyse. Donc jusqu'à la fin. Lacan et son retour à l'esprit de la lettre freudienne. Alors avec Lacan, on a un nouvel essor par rapport à la psychanalyse, parce qu'il faut savoir qu'en 1953-54, Lacan commence son séminaire, c'est un enseignement oral qui n'était pas du tout voué à la publication. De 1953-54, il va tenir un séminaire à peu près toutes les semaines. Il y en a 25. J'en ai amené un, ça vous donne un petit peu le type de volume. En plus, c'est le symptôme, c'est à propos de Joyce. Et ça fait 50 cm. Hier, j'ai voulu mesurer à peu près ce que ça représentait dans ma bibliothèque. Ça fait 50 cm de séminaire. Durant les premiers séminaires, les 6 premiers séminaires, Lacan va surtout s'attacher, parce que les psychanalystes qui assistent à son enseignement connaissent mal Freud, ne savent pas très bien ce qu'ils font, ils considèrent que ce sont des ignorants. Donc il traduit l'œuvre de Freud qui est imparfaitement connue en France et il fait un commentaire très raisonné, séminaire 1, séminaire 2, séminaire 3, 4, 5, 6. Au sixième, il commence à prendre une petite distance par rapport à Freud, par rapport aux commentaires systématiques de Freud, même si ces 6 années de ses séminaires ne se résument pas à un commentaire de Freud, hein, puisqu'il imprime sa patte quand même déjà à Lacan. Et bien à partir du séminaire 6, qui s'intitule « Le désir et son interprétation », il va déployer une analyse extrêmement rigoureuse d'Hamlet de Shakespeare. C'est-à-dire qu'il reste dans les pas de Freud et il va donner une lecture qui va durer 6 semaines. Oui, c'est ça, 6 semaines, il y a 6 leçons de commentaires sur la pièce, l'unique pièce d'Hamlet. Donc il va faire il va suivre la voie ouverte par la lettre de 1897 que je vous ai lue tout à l'heure, où il découvre le complexe d'Édipe pour lui-même, Freud, et il pense que Hamlet et Édipe roi, c'est la même chose. En fait, Freud, on pourrait dire les choses comme ça, est structuraliste avant l'heure. Il va soutenir, comme l'a fait Lévi-Strauss, qu'un mythe, le mythe d'Édipe par exemple, le mythe d'Édipe roi, n'a aucune valeur en soi. Un mythe, pour Lévi-Strauss, ne prend son sens que dans son rapport à un autre mythe. Et Freud, déjà, avait le sentiment que entre l'Édipe roi de Sophocle et l'Hamlet de Shakespeare, on a la même structure déformée par l'évolution de la culture. Et donc, Lacan va déployer dans son séminaire cette lecture d'Hamlet pour amener un éclairage sur ce qu'il appelle le désir. Le désir qui est une notion fondamentale et complexe en psychanalyse et ailleurs. Dans le séminaire 7, je ne vais pas les faire tous, hein, mais dans le 7, qui s'intitule « L'éthique de la psychanalyse », là, il reprend Sophocle, mais ce n'est pas la pièce d'Édipe, c'est Antigone, pour donner sa juste mesure à la question du désir pur, qui n'est pas le désir du psychanalyste. Mais il poursuit sa question de qu'est-ce que le désir, entamé avec Hamlet, et il poursuit avec Antigone. Il va passer par une longue étude de la littérature courtoise, l'amour courtois. Dans le séminaire 8, le transfert, Lacan, là, va prendre un autre rythme avec le banquet de Platon et ensuite avec trois pièces de Claudel, la trilogie des Coups-Fontaines, en faisant de ce séminaire 8, le seul qui soit, du début à la fin, habité par des œuvres littéraires, si on considère que le banquet de Platon est une œuvre littéraire. Il y a quand même des choses dans le banquet, on ne peut pas ouvrir un débat là-dessus, mais il y a quand même des choses dans le banquet qui sont extraordinaires. Lacan se demande, mais comment est-ce que le banquet a pu traverser les siècles, parce que c'est un objet un peu particulier dans l'œuvre de Platon. C'est très particulier, il y a une femme en plus qui va venir parler. Vous imaginez quand même, à l'époque. Avec Claudel, ce que fait Freud, avec Lacan, avec Claudel, c'est qu'il essaie de comprendre encore comment peut fonctionner quelque chose de la transmission du désir à une époque où la figure du père, la figure paternelle est en perte de vitesse. C'est là qu'il va forger ce qu'il a appelé le signifiant du nom du père. Lacan, pour se démarquer un petit peu de Freud, pour aller au-delà du père oedipien. J'entre pas sur cette question. Ensuite, c'est terminé. Là, à partir du séminaire 8, le transfert, Lacan va aborder des questions qui concernent que les psychanalystes, rien que les psychanalystes, et encore les psychanalystes, bien sûr avec des références philosophiques et littéraires importantes, mais jamais aussi importantes que celles qu'il a menées jusqu'à présent, et qui ont été, ça il faut le souligner, qui ont été menées par Lacan comme Freud ne l'a jamais fait, hein. Freud a toujours dit qu'il fallait s'occuper de littérature, tout ça, mais il n'a jamais poussé ses analyses d'une façon aussi systématique et aussi longue sur des œuvres comme l'a fait avec minutie Lacan. Donc Lacan, il va arrêter ça jusqu'au séminaire 24, qui va être consacré à James Joyce. Le séminaire 23, pardon, qui est d'une importance folle pour les psychanalystes encore aujourd'hui, parce qu'on est un petit peu comme des talmudistes. Hein. On passe notre temps à lire les œuvres de Lacan et à s'interroger sur la virgule, pourquoi est-ce qu'elle est là et pourquoi est-ce que... On devient dingue avec cette histoire. Donc ça me fait du bien d'être là.
Rappelle peut-être, parce que tout le monde l'a pas en tête, James Joyce et notamment Ulysse, en quoi c'est un moment important dans... Enfin, présente rapidement quelques mots, un titre de rappel pour tout le monde.
Pourquoi c'est important pour les psychanalystes?
Non, pour Lacan, dans l'histoire de la littérature au XXe siècle.
Parce que c'est un auteur qui a voulu marquer son époque en s'engageant dans une littérature qui n'ouvre pas forcément au sens. C'est-à-dire qu'il a voulu comme dit Beckett a commenté l'œuvre de Joyce, à la demande de Joyce. C'est une œuvre dans laquelle le sens n'est pas ce qui prime. À savoir que c'est une écriture de l'indéchiffrable. Voilà ce que je dirais. Et Joyce a voulu... C'est très compliqué de parler de Joyce comme ça en un mot. Mais enfin, ce qu'il a voulu, c'est aussi entrer dans la postérité pour donner du travail aux universitaires, au moins pendant deux ou trois siècles, ça a marché.
Pas encore.
Finnegan's Wake, par exemple, c'est un texte dont, aux dernières nouvelles, on a dénombré 23 langues mêlées. 23 langues mêlées, du français, du chinois, enfin, tout ce que vous voulez. Donc on est loin du côté du sens.
Ça travaille sur la langue, en fait, avant tout, non, justement.
Il peut y avoir un mélange de langues, mais avec un sens.
Oui.
Là, le côté l'auteur, pour lui, après, il a des traductions, il articule des choses
Mais parfois, vous avez un fragment de phrase. Vous avez un fragment de phrase, vous reconnaissez la langue. C'est du français, vous le lisez à haute voix, c'est de l'anglais.
Oui.
Ouais, il a poussé l'équivoque au-delà de la simple apparence. C'est qu'il faut le porter au niveau de la voix. Il faut vocaliser. C'est un livre qui se lit, on peut pas le lire de façon muette. Sinon, on n'entend rien. Mais qui peut entendre toutes les langues
Un dialogue entre lire et vocaliser.
Comment?
C'est un dialogue entre lire et vocaliser.
Sûrement, oui. Oui.
Je pense que ça va être un peu comme une séance de psychanalyse. Quelqu'un qui est sous le divan et se laisse aller.
Oui. Oui, oui, oui. Mais bon, il n'a pas écrit que ça, hein. Il a écrit des œuvres tout à fait lisibles. Hein. Portrait du jeune homme anarchiste, Les gens de Dublin, ce sont des romans qui se lisent, mais il a voulu rompre aussi avec sa langue natale, c'est l'irlandais, hein, je ne me trompe pas. Hein. Joyce, il a été important, je crois, pour Beckett aussi. C'est quelque chose qui a marqué le milieu littéraire par ce biais-là aussi. Parce que je me suis beaucoup intéressé à Beckett. Et là, je vais juste vous parler de quelques articles, il y en a très très peu, d'articles rédigés par Lacan. Puisque Lacan, je vous ai parlé du séminaire, qui est un séminaire oral qui n'aurait pas dû paraître, mais bon, heureusement que nous l'avons. Et à côté de ça, en 1965, Lacan a commencé à écrire quelques articles. Alors, dès qu'il prend la plume, Lacan, ça devient terrible. C'est très beau, mais ça peut devenir d'une complexité folle, parce que c'est quelqu'un, je crois, qui est imprimé par cet esprit joycien de ne pas vouloir être d'un accès facile et univoque. Parce que quand même, quand on parle de l'inconscient, quand on parle du parler, quand on parle du sujet, la pire des choses, c'est de croire qu'on a tout dit du sujet, qu'on sait tout de l'autre. Et Lacan a toujours maintenu le fait qu'on avait toujours à en apprendre, toujours à en apprendre, c'est pas terminé. Donc le premier texte écrit par Lacan, c'est l'hommage fait à Duras du ravissement de l'Olvestein. Ce texte est paru dans les cahiers Renaud Barrault numéro 5 en décembre 65, et ça ouvre une brèche dans l'abord freudien de la littérature. Le ton est polémique, Lacan critique les post-freudiens pour leur volonté de promouvoir la psychobiographie. Ces critiques sont adressées donc aux psychanalystes post-freudiens, et je vous lis ce passage. Celle, par exemple, d'attribuer la technique avouée d'un auteur à quelques névroses, deux points, goujaterie, et de le démontrer comme l'adoption explicite des mécanismes qui en font l'édifice inconscient, sottise. Donc vous voyez, il y va fort. Hein. Qu'on attribue une œuvre littéraire à la névrose d'un auteur, goujaterie. Qu'on essaie de démontrer que les mécanismes littéraires sont homogènes aux mécanismes inconscients, sottise. Et plus loin, à propos de Duras, je pense que même si Marguerite Duras me fait tenir de sa bouche qu'elle ne sait pas dans toute son œuvre d'où l'ol lui vient, et même pourrais-je l'entrevoir de ce qu'elle me dit la phrase d'après, le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, lui fut-elle donc reconnue comme telle, c'est de se rappeler avec Freud qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède et qu'il n'a donc pas à faire le psychologue là où l'artiste lui ferait la voix. C'est précis. Je m'arrête là. Ce qu'il dit aux psychanalystes, c'est qu'ils n'ont pas à faire le psychologue. Faire le psychologue, ça veut dire interpréter l'œuvre, dire voilà comment elle fonctionne. Elle relève de la névrose de l'auteur, elle relève des mécanismes de l'inconscient par rapport à l'intrigue ou à la structure du récit. Non, se rappeler que l'artiste lui ferait la voix. Alors dans mon milieu, on la répète souvent cette phrase, on se le dit entre nous, mais quand même il y a ce penchant à vouloir revenir en arrière et dire ah ouais mais là on voit bien là ce texte, hein, on le voit, c'est la névrose, c'est la jouissance de l'auteur. On n'arrive pas à la tenir pour véritablement juste et à la hauteur de sa valeur. Non, en prendre de la graine. Ça passe mal, je vous assure que ça passe mal dans mon milieu. Moi, on est quelques-uns à résister. Et une petite anecdote que m'a rappelé Sophie, c'est que durant le séminaire, l'enseignement oral donc, que tient Lacan à cette époque-là, à la fin de son séminaire 12, les problèmes cruciaux pour la psychanalyse, je vous ai dit qu'il s'occupait que d'affaires psychanalytiques ensuite, il boucle l'entrée, il décide que la soirée sera fermée aux analystes ou à ceux qu'il a décidé de recevoir, parce qu'il va lire de longs passages de l'Holbein. Voilà. Et dans cette leçon, on l'entend pester aussi contre la labor psychobiographique des œuvres. Ensuite, il y a un texte qui paraît dans une revue de littérature, dans la revue Littérature, le 3 octobre 71, chez Larousse, qui s'intitule, ce numéro-là s'intitule Littérature et psychanalyse. Et Lacan y publie un texte qui s'appelle Littérature. Littérature. Et là, c'est en lien direct avec Beckett et Joyce. Parce que Lacan, quand il va se mettre à l'étudier pendant toute une année avec son auditoire au séminaire, il va prendre ça comme un point de départ que Joyce a été au mieux de ce qu'on peut espérer en menant une psychanalyse. C'est comme s'il avait suivi une psychanalyse. Donc évidemment, ça intéresse les analystes de voir qu'on peut arriver à un résultat qui serait l'équivalent d'une fin d'analyse, mais sans passer par le divan. D'accord, mais tout le monde n'est pas Joyce. Et on trouve dans ce texte une des quatre références de Lacan à Beckett, une des quatre références où on a le sentiment, quand on le lit, ce passage-là, on a le sentiment que Lacan reconnaît en Beckett un frère, carrément une âme sœur. J'ai commenté ça dans un des numéros de la revue L'Enjeu. Si ça intéresse quelqu'un, je pourrais lui communiquer par voie dématérialisée, comme on dit. Parce que les entretiens et les articles publiés dans la revue L'Enjeu, cette revue dont a parlé Dominique tout à l'heure, elle a ceci d'intéressant, c'est qu'au-delà d'être chère, la revue elle-même, si vous attendez 5 ans, c'est pas très long, vous pouvez avoir un accès libre à tous les articles. Il faut juste attendre 5 ans. Ou être universitaire.
Allô, l'éditeur. Vous savez ce qu'il a dit, l'auteur.
Oui, si je me suis mis à défendre la place capitale dans un de mes derniers travaux apportés sur Beckett, j'en ai beaucoup parlé à Narbonne, puisque pendant des années, j'ai fait un séminaire en littérature, psychanalyse. J'ai commencé en 96, puis j'ai fait ça pendant quelques années, puis j'ai repris, puis là, j'ai un peu arrêté. Je suis passé à des questions plus analytiques, mais on peut pas. On ne peut pas parler de psychanalyse sans emprunter à la littérature, sans essayer de s'en nourrir. Et donc, dans le travail que j'ai mené sur l'étude que j'ai menée sur Beckett, j'ai essayé de défendre l'idée que Beckett était à relire et que c'est une valeur sûre pour les psychanalystes à cause de son éthique du bien-dire. Puisque Beckett, vous savez, vous avez lu l'innommable, vous voyez comment ça se termine. Hein. Je ne peux pas continuer, mais je vais continuer. Dire, malgré tout, même s'il est impossible de dire. Et je crois que ça, tous les véritables auteurs, pas les analystes, hein, les autres, les vrais auteurs, en savent quelque chose. Puisque on a là quelque chose qui est homogène à l'expérience de la cure analytique. Au bout d'un moment, au bout de quelques années, qu'est-ce que je peux dire de plus? J'ai tout dit. Je sais tout, j'ai tout dit. Certes, mais encore faut-il arriver à s'extraire de la langue commune, de la langue acquise, de la langue que l'on maîtrise, de la langue académique, j'ai envie de dire. Celle que le sujet habite avec une certaine harmonie. Celle du pacte que le sujet passe entre le monde et lui-même, par l'acquisition, par le maintien de ce langage parfaitement maîtrisé et qu'il connaît bien. Une analyse, non, c'est sortir de la pensée, c'est sortir du concept, c'est sortir du beau langage appris et parfaitement maîtrisé pour passer outre la pensée conceptuelle et toucher à des bouts de l'intime qui ne rentre pas dans le cadre parfaitement partageable. Ici, je pourrais évoquer un écrivain récemment invité à Luciole par Dominique Bondu. C'est Éric Vuillard. J'ai été fasciné, je ne sais pas si certains d'entre vous ont assisté à la conférence qu'il a donnée à propos de son dernier roman, c'est ça, hein ? Justement parce que le travail d'Éric Vuillard, qui ne date pas de, du prix Goncourt, hein, puisque tu le connaissais avant, tu l'avais invité avant. Moi, j'avais commencé à le lire grâce à Véronique il y a quelque temps déjà. En fait, la méthode Éric Vuillard, c'est essayer de sortir des discours dominants de l'histoire qu'on raconte, qu'on se raconte, sur l'histoire elle-même, pour essayer d'en extraire ce qui est discordant, qui cloche, qui ne colle pas, les petits détails dont on ne veut pas tenir compte, pour donner la parole à ceux qui sont les oubliés de l'histoire, à ceux qui sont les oubliés du discours dominant, pour leur permettre de trouver une voie. Et la méthode de Vuillard, elle me semble analytique, dans le sens où il s'attache à repérer, ce qui est déjà un exploit, les éléments discordants des récits officiels, et d'aller à leur rencontre. Mais je l'ai déjà dit tout ça. Ouais. Je pourrais encore parler du poète et humaniste Yves Bonnefoy, décédé en 2016, je crois, le 1er juillet 2016, qui, dans son œuvre de poète, mettait l'accent sur la nécessité pour que le poète aide à travailler contre le concept, sortir du concept, comme il a pu le faire dans un recueil qui s'intitule notamment « Raturer outre ». Oui, c'est ça, « Raturer outre ». Il y a un magnifique poème sur la fleur, où il essaie de faire entendre ce que, de façon théorique, il a déjà pu soutenir, à savoir que, pour parler de la couleur d'une fleur, du rouge d'une fleur, le poète est en difficulté, mais c'est aussi le seul peut-être qui peut y arriver, parce que le concept de rouge, lui, il est éternel, mais quand vous voulez faire ressentir, vraiment ressentir la chose de la fleur rouge qui est éphémère, c'est tout un monde. Et ça, il n'y a que la poésie qui peut le créer.
Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un certain nombre de références littéraires par rapport aux travaux psychanalytiques qui se transmettent aussi, limitées à un certain nombre d'auteurs? Vous dites que les psychanalystes, la psychanalyse se nourrit de
oui.
la littérature.
Oui.
Est-elle à son tour Est-ce qu'il y a une empreinte?
Est-ce que ça marche dans l'autre sens?
Oui, 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 oui. Vous lisez par exemple Pascal Quignard.
Ouais.
Pascal Quignard qui a un dialogue avec la... Il a tout lu, c'est le bonhomme qui a tout lu, par excellence. Il fait partie de ce que j'appelle dans ma mythologie personnelle les dieux. Dans l'Antiquité, les soi-disant, hein, dans l'Antiquité grecque ancienne... On disait que les dieux étaient partout présents, il y avait le dieu de la source, quand la source n'était pas polluée par les pesticides, et donc les gens remerciaient la source, le dieu de la source. Pour moi, Pascal Quignard fait partie de ma mythologie, hein, puisque je ne crois pas à l'être suprême, je crois au dieu bien réel, il fait partie des dieux réels. Et je crois que c'est comme Dominique Bondu, par exemple. Voilà. J'ai des tas dans ma mythologie, les gens ne le savent pas parce que j'en parle jamais, mais j'ai plein de dieux, c'est-à-dire des gens qui incarnent, qui portent l'étincelle de l'intelligence non artificielle. Ça va devenir précieux, ça, l'intelligence non artificielle, l'intelligence pure. Et quelqu'un comme Pascal Quignard s'est amusé à écrire Les escaliers de Chambord, par exemple, en jouant de la notion de l'inconscient. En jouant. J'ai écrit un petit texte, une petite étude sur les escaliers, et je l'ai envoyé. Et voilà, il était tout à fait d'accord, il m'a dit, il m'a envoyé un petit mot charmant pour me dire oui, c'est ça, il a un joug, et bien sûr, ça fait partie de la culture. Hein. On a même un dieu du roman policier ici qui s'amuse à jouer avec les psychanalystes et l'inconscient. On a une déesse de l'autobiographie, Marie Bardet, mais vous l'entendrez dans le cadre du programme des... de Luciole. Hein. Moi, je ne pourrais pas venir. Ouais. Je pourrais pas venir. Ouais. C'est impossible d'échapper à des notions comme celle-là d'inconscient quand on écrit. Oui. C'est comme la dame qui m'amène son petit en me disant, la coiffeuse m'a dit qu'il faisait son Édipe, qu'il fait l'Édipe. Voilà, c'est entré dans la culture. Mais le mesurer, oui, je pense qu'on peut pas le mesurer. On ne peut pas le mesurer. Et puis il y a ceux qui sont farouchement, il y a des auteurs qui sont anti-psychanalyse, anti-inconscient, et qui en parlent. C'est eux qui en parlent le mieux, peut-être. Ah oui, oui, oui. Philippe Roth, On est un exemple. Après, vous en avez. Le dernier article que j'ai écrit, c'est une petite étude consacrée à un roman que m'a fait découvrir indirectement un des dieux qui ont fui la région, Jocelyn Bonnerave. Merci, Jocelyn Bonnerave. Qui s'intitule L'Évangile selon Jésus-Christ. Ce roman extraordinaire.
Saramago, oui.
Saramago. Ce roman est extraordinaire. Et il vous parle de la vie de Jésus-Christ. Et à un moment donné, j'ai lu, j'ai tourné la page, j'ai lu, puis j'ai retourné la page en arrière, mais il a bien dit, Freud, Grodeck, Lacan, il a bien dit, il a bien écrit dans son roman, Freud, Grodeck, Lacan. Quelqu'un d'imprégné aussi de la lecture de Lacan, j'en suis persuadé, je ne connais pas cet auteur encore, je ne l'ai pas bien fouillé, mais oui, je voulais conclure sur la poésie, parce que tout le travail que je ne peux pas résumer là, une fois de Lacan sur Joyce, sur l'importance qu'il met sur le travail sur la langue, ça l'amène à considérer qu'en définitive, ce que les psychanalystes ont à apprendre d'un auteur comme Joyce, c'est que le psychanalyste ne peut plus continuer à interpréter en ajoutant du sens aux symptômes. Les symptômes, pour nous, analystes, les symptômes de l'inconscient, ce sont des embarras. Un embarras dans la vie, chacun a des embarras. Il y a des embarras qui viennent de l'extérieur, comme la voiture qui tombe en panne, et vous avez des embarras de l'intérieur qui fait que vous voulez écrire, et aujourd'hui vous ne pouvez pas écrire, ou vous voulez chanter, et vous ne pouvez pas. Enfin, ça vient de vous, ce n'est pas à cause d'une angine, ni d'une crampe. Ça vient de vous. Ou une pensée qui revient, ou une douleur physique qui s'impose de façon récurrente. Donc l'embarras. Et avec Freud, on a toujours eu l'idée qu'il fallait découvrir le sens inconscient du désir qui s'exprime là-dedans, dans ce symptôme, pour le faire disparaître. Freud s'est aperçu que ça ne marchait pas aussi bien, donc ce n'est pas aussi net. Mais les élèves de Freud, les générations, ont cru que la psychanalyse, ben, c'était ça. Il suffisait de mettre du sens sur le symptôme. Ben, si ce n'est pas l'analysant qui le dit, ben, c'est l'analyste qui va mettre du sens et ça va se résoudre. Mais l'analyste lacanien, non. C'est un travail sur la parole et c'est un travail sur la langue propre au sujet. Et on s'aperçoit que l'interprétation, et c'est la thèse que défend Lacan vers la fin de sa vie, l'interprétation, si elle tire enseignement de quelqu'un comme Joyce, c'est de pouvoir retirer du sens. À savoir que l'interprétation, elle doit être poétique avant tout. Poétique dans le sens de retirer du sens. Là où le sens commun domine, sens commun, faire entendre quelque chose d'autre qui relève d'une jouissance plutôt que d'un sens, mais d'une jouissance privée, impartageable.
Je ne comprends pas ce que c'est retirer du sens.
Il y a un poète qui dit, un poète doit enterrer chaque jour un mot. Je ne sais plus qui dit ça. Vous savez ? Retirer du sens. Je vous réponds.
Retirer, tu veux dire en sens de retrait du sens.
Oui, mais...
Je vous lis un petit truc que prononce Lacan, c'est un discours qu'il prononce quand il est aux États-Unis. Lacan, il avait cette faculté que quand il écrit, c'est très complexe et c'est hermétique. Quand il parle à son séminaire en France, c'est difficile. Et quand il est à l'étranger, on a le sentiment qu'il se fout de la gueule de son public français parce qu'il devient limpide. Je vous lis ça. À première vue, il parle de l'interprétation psychanalytique. À première vue, elle semble donner un sens à ce que dit l'analysant. En réalité, l'interprétation est plus subtile, tendant à effacer le sens des choses dont souffre le sujet. Le but est de lui montrer à travers son propre récit que le symptôme, la maladie, disons-le, n'a aucun rapport avec rien, qu'elle est privée de quelque sens que ce soit. Même si en apparence elle est réelle, elle n'existe pas. C'est vrai, c'est ce qui se découvre. Par exemple, je peux prendre un exemple parce que je comptais en parler à un autre lieu. À nos prochaines journées sur le symptôme à Paris. C'est une toute petite vignette clinique. Aujourd'hui, les gens, ils vont rencontrer un psy, peu importe ce qu'est le psy, pour vous que ce soit un psy. Pas forcément un psychanalyste. Là, par contre, c'est un psychanalyste qui l'écoutait. Et c'est quelqu'un qui vient traiter un symptôme particulier. Parce que les gens, aujourd'hui, ils viennent avec un symptôme à traiter, c'est-à-dire un trouble. Et là, c'était achat compulsif. Moi, je souffre d'achat compulsif. Toi, tu vas me guérir. Donc moi, j'écoute cette personne me raconter pendant des semaines et des semaines et des semaines la catastrophe qu'elle vit depuis 3 ans, que depuis qu'elle me voit, ben, ça ne marche pas. Que chaque fois qu'elle vient me trouver, elle commence avec la même phrase. Ça dure, ça dure, ça dure. J'ai encore des pensées. Et la séance commence. Moi, je suis en peine, j'écoute, j'écoute. Je subis ça pendant des semaines, jusqu'à ce qu'un jour, bon sang, elle reprend cette formule inaugurale, introductive de sa séance. J'ai des pensées. Quelles pensées? Rien, rien. Et
elle veut dire beaucoup d'argent.
Hein? Oui. Non, 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 ça s'est pas arrêté là. Non, d'abord, ça a été un mouvement de protestation, mais j'ai pas de pensées. Puis ensuite, les pensées sont venues. Et ça a été un changement radical qui a suivi. Hein. Il n'y a pas eu d'analyse, mais c'était quand même le début d'une transformation radicale. Elle était habitée par des pensées dont elle ne parlait pas. Alors, le sens de son symptôme, de sa souffrance, c'était « je dépense tout l'argent du foyer et ça crée une catastrophe au niveau professionnel et dans le couple, et donc je souffre de ça ». Le sens, il fonctionnait, hein. Il n'y avait pas d'énigme. Mais en introduisant cette énigme sur l'équivoque des pensées en décomposant, on fait surgir autre chose qui ouvre à une autre dimension et qui permet au sujet de dire ce qu'il avait à dire, au point que le résultat, sur un plan thérapeutique, je ne sais pas ce que ça vaut, mais le résultat pour cette personne, c'est que le boulot, elle a laissé tomber et le partenaire, elle a laissé tomber aussi. Donc elle avait bien raison de mettre en péril son couple et son boulot, puisque ça ne lui convenait pas, et elle a redémarré une autre vie, voilà.
Est-ce qu'on pourrait dire, parce que c'est une sorte de libération de la langue, à partir du moment où on tape sur les plateformes, un plateau qui tourne, avec un mot, une suite de mots, oralement, qui prend un sens différent, c'est une sorte de polysémie.
Oui.
Finalement, on libère véritablement de la chaîne langue.
Oui, oui, c'est ça.
Ah oui.
Ah, oui. Ça...
En fait, est-ce que par rapport à ta question de départ et l'information, qui est que la littérature prend le pas sur la psychanalyse, ou un pas d'avance, est-ce que ça ne se joue pas justement là-dessus? C'est un peu, il me semble que ce que tu dis. Sur le fait que la question de l'interprétation, c'est la production du sens, d'un sens, et que la littérature, par nature, pose d'emblée que c'est polysémique. C'est pluriel, un roman, un récit, la littérature, et c'est par nature, par essence, c'est pluriel. Il n'y a pas un sens unique. C'est ce qui fait probablement qu'on peut lire encore, sans l'avoir épuisé, Ulysse. Si ça avait un sens univoque, ça fait bien longtemps que les interprétations, les exégèses auraient épuisé le sens.
Tout à fait, oui.
Donc le texte serait mort, usé. Qu'est-ce qui fait que c'est toujours là, vivant, présent? C'est qu'on n'en a jamais fini avec les interprétations et le fait de produire du sens à partir d'Ulysse. Mm-hmm. Ulysse d'Homère, mais on pourrait prendre Ulysse de Joyce, justement. Et alors que... Donc, la littérature, elle pose ça d'emblée, alors que, tu l'as dit, me semble-t-il, plus par rapport à Freud, justement, que par rapport à Lacan, qui remet en cause cela, que la psychanalyse est toujours soumise à la tentation, j'ai bien dit à la tentation, je n'ai pas dit qu'elle se résume à ça, que l'interprétation est univoque, possiblement. Et j'en veux pour preuve le fait que Freud a eu cette tentation, par exemple, quand il a eu tendance à interpréter le mythe d'Oedipe d'une façon univoque en disant « ça prouve que j'ai raison, mais ma théorie univoque a raison », ce qui est complètement... Il y a eu un texte remarquable des grands hellénistes structuralistes français. Alors je les confonds toujours, je crois que c'est Détienne et Vernant qui ont montré que, au fond... L'interprétation de Freud était totalement arbitraire d'Oedipe. Parce que le mythe d'Oedipe, si on le resitue dans le contexte de la Grèce antique, d'un point de vue ethnologique, ne veut pas du tout dire ça. C'est-à-dire, n'a pas de préoccupation sur cette question de papa, maman et moi.
C'était la seule préoccupation.
Mais ça, c'est...
Non, mais ça veut dire qu'il n'y a pas d'univocité.
Oui.
du mythe comme oui. du texte de littérature, du grand texte
oui,
de littérature.
Mais ça veut dire que Freud, s'il parle de ça, qui connaît pas ou qui fait pas attention à toutes ces histoires de l'Antiquité, lui, ça va. Il ouvre quelque chose qui est peut-être historiquement erroné, je ne sais pas quoi, mais qui est intéressant dans un cas d'ouverture, mais qui par contre après risque de se refermer. Et du coup, ce refermant aura besoin d'une autre lecture pour que ça se réouvre, et que ça se réouvre ailleurs, en partant de la même chose. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur l'histoire du... sur votre petite histoire là, de votre analysant là, qui à un moment écouter les mots autrement, ça permet d'ouvrir un autre sens et de sortir du sens premier qui était sûrement intéressant, qui se passait des choses, mais qui était corseté, qui était fermé. Le réécouter autrement, ça ouvre. Mais peut-être que le réécouter autrement, ça ouvre pas suffisamment. Ça peut continuer un peu.
C'est intéressant comme question, l'interprétation ouverte. Voilà, les textes proposent une interprétation ouverte. C'est vrai que quand même, cliniquement, ce à quoi on est confronté, c'est que l'interprétation, elle n'est pas ouverte à tous les sens pour nous. Pas par rapport au roman, par rapport à ce que dit quelqu'un sur le divan. C'est pas ouvert à tous les sens. Ouais. Mais c'est très intéressant comme question.
Juste une parenthèse, tu faisais allusion tout à l'heure au Talmud, et ça, c'est une leçon de ce point de vue-là, c'est-à-dire que la pratique talmudique, c'est précisément qu'il y a le sens n'est jamais fermé.
Oui, oui, oui.
Mais en même temps, on ne peut pas dire n'importe quoi non plus.
Voilà. Oui, ce que je voulais dire concernant l'Édipe, c'est que là, on commence à sortir de cette aliénation dans laquelle nous a plongé Freud. Et pour de bonnes raisons, il nous a plongé dans une aliénation pour de bonnes raisons. Je crois que tous les analystes qui sont là, mes amis analystes qui sont là, pourront dire la même chose. Quand on reçoit quelqu'un, il nous parle pendant des mois, parfois pendant des années de papa et de maman. Ça, et des frères et sœurs aussi. Il y en a. Mais ça continue. Mais là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est un mythe que chacun se forge. Une plaque tournante, vous avez dit tout à l'heure, hein, ce dans quoi on s'enserre, on s'enferme, on s'empiège, on s'enferme. Un sens qui serait donné par... C'est difficile pour en sortir. C'est difficile pour en sortir parce que ce qu'on a du mal à concevoir, c'est que si les gens nous parlent de papa et maman, c'est que qui leur a parlé d'abord à ces êtres ? C'est quelqu'un qui était là en position de mère, c'était quelqu'un qui était là en position de père. Mais c'est la façon dont on a reçu le langage qui fait que ces êtres-là ont le plus d'importance dans une vie. C'est le père et la mère qui ont parlé. Et quand on écoute les choses avec cette oreille-là, effectivement, on s'aperçoit que prendre un petit peu de distance. Il y a un au-delà de l'Édipe, malgré nos chers névrosés qui y tiennent. Je m'y inclus dans les chers névrosés, je vous raconte pas mon analyse. Hein. Voilà, mais non. C'est pour ça que si un jour vous entendez un analyste dire non, c'est pas possible, la famille elle a besoin pour les enfants d'un papa et d'une maman, c'est une connerie. C'est une connerie. Le sujet a besoin d'être parlant qui s'adresse à lui. Pas d'intelligence artificielle. Mais pas non plus forcément un couple standard. Le couple standard, on sait ce que ça donne. certains. Pascal, excusez-moi.
Non. Mais le truc, c'est que ce que j'allais dire, vous avez soulevé quelque chose qui ne va plus dans le même sens, mais c'est pas grave. Moi, personnellement, ce que je sens et ce que je sais, je peux dire, je fais une distinction entre le rapport à la littérature des deux fondateurs majeurs de la psychanalyse et l'élaboration d'une théorie dans laquelle peut-être certains sont très enfermés, d'autres moins. Et puis ce qui se passe justement, et ma question elle va être là, c'est une question personnelle, ce qui se passe dans une pratique d'analyste. C'est-à-dire moi ma question, et je pense que c'est très différent, alors moi j'ai pas lu vraiment les textes de Lacan sur ces auteurs que je connais plus ou moins très bien, mais je pense que c'était les débuts de la psychanalyse, et d'ailleurs j'aimerais bien, ça sera, alors je vais poser deux questions, j'aimerais bien... Si vous pouviez, c'est difficile, hein, en quelques phrases, résumer pour vous aujourd'hui le rapport de Freud et Lacan à la littérature.
J'allais y venir, c'était ma conclusion.
Ah bon, alors.
C'était ma conclusion.
C'est parfait.
Et après, attendez, je vais vous poser ma deuxième question.
Ouais.
C'était la conclusion de la conclusion.
Parce que Lacan a beaucoup bougé, donc je vais vous...
Je vous donne ma deuxième question.
Ouais.
Ma deuxième question, c'était, vous, dans votre pratique d'analyste, quel est votre rapport à la littérature ? J'en ai une petite idée. Mais comment vous résumeriez, comment vous présenteriez ça aujourd'hui ?
Je vais répondre à la première.
Après, à la deuxième. Parce qu'elles sont liées, les deux.
Je vous ai parlé du séminaire 6, le désir et son interprétation. Le commentaire que fait Lacan d'Hamlet, dans le fil, dans les pas de Freud. À ce moment-là, voici comment Lacan définissait la psychanalyse. J'ai relevé cette phrase qui est à la fin de son séminaire. Si je devais la comparer à quelque chose, une psychanalyse, ce serait un récit qui serait lui-même le lieu de la rencontre dont il s'agit dans le récit. Donc il est ancré sur la structure du récit, comme lieu de rencontre. Et en suivant Joyce avec Beckett, donc dans les années 75, il s'oriente alors d'une façon radicale, non pas vers le récit, le roman, mais la poésie, comme pratique du sonore, pour définir la psychanalyse comme une pratique sans valeur, c'est-à-dire sans valeur de sens ajouté. Et là, je vous cite Lacan, parce que si je devais comparer la psychanalyse, ça c'est Lacan qui parle, hein, un récit. Et après, c'est Dominique Marin.
Ah bon, mais c'est pas écrit. De galère,
non, non, là, je vais vous donner un élément du séminaire 24. L'insu que c'est de l'une, bévue, c'est l'amour. Je vous dis pas comment ça s'écrit. L'insu que c'est de l'une, bévue, c'est l'amour. Bon, passons. Nous n'avons rien à dire de beau. C'est d'une autre résonance qu'il s'agit à fonder sur le mot d'esprit. Un mot d'esprit n'est pas beau. Il ne tient que d'une équivoque, ou comme le dit Freud, d'une économie. Rien de plus ambigu que cette notion d'économie. Mais tout de même, poursuit Lacan, l'économie fonde la valeur. Une pratique sans valeur, voilà ce qu'il s'agirait pour nous d'instaurer. Il a 75 ans, là, Lacan. Il continue à essayer d'amener quelque chose de nouveau pour que l'interprétation analytique aille contre la pente du symptôme à toujours se nourrir du sens. Concernant la poésie, je ne peux pas m'empêcher non plus de faire une petite référence à quelqu'un qui est venu ici, qui était ici au mois de juin, c'est Valentine Gobbi, qui nous a parlé de son travail sur et à propos de Charlotte Delbo et d'un témoignage d'une rescapée des camps. Il faut absolument lire Kinderzimmer. Elle a expliqué ici, face à cette charge qu'elle s'était donnée de transmettre le témoignage d'une survivante des camps nazis, elle a expliqué ici qu'en fait, ce qu'il fallait pour donner au témoignage tout son poids, c'était une construction fictionnelle, poétique. Sinon, ça passe pas. Sinon, ce sont des comptes rendus qui ne sont pas lus, et sinon, ça ne touche pas. Et là, je crois qu'on a quelque chose d'absolument... Comment ?
Fondamental.
Fondamental, oui. Nous sommes des êtres traversés par le langage, et pour être touchés, ça n'est pas avec le discours, le sens commun qu'on peut l'être. C'est la voie poétique. Comment faire qu'une chose résonne chez l'autre ? Et j'aurais pu terminer aussi en parlant de ce fameux entretien avec Jean-Yves Masson. Puisqu'il y en a deux, il y en a un qui est en ligne sur l'interprétation, puisque c'est Jean-Yves Masson, Dominique Bondu en a parlé tout à l'heure. C'est un écrivain, un poète, mais qui met de côté son œuvre pour se consacrer davantage à son travail de transmission et de traducteur. Il termine depuis je ne sais plus combien d'années une encyclopédie des œuvres traduites en langue française depuis l'invention de l'imprimerie. Vous voyez le bonhomme.
Et puis c'est quelqu'un qui, à titre personnel, a traduit aussi bien du Yeats, le poète irlandais, que de Hoffmannsthal, l'allemand, et qui traduit aussi Luzzi, le poète italien. C'est-à-dire qu'il traduit des textes de poésie sur au moins trois langues. Il pourrait le faire en espagnol, Sauf qu'il a renoncé à publier des traductions espagnoles parce qu'il a un homonyme qui est spécialisé dans la traduction espagnole. Donc, je le laisse.
C'est une sorte de génie. Il fait partie des dieux, oui, que j'ai eu l'occasion d'approcher un peu de près. Grâce à Dominique qui m'a dit insiste, parce qu'il ne répond pas, le bonhomme. Le bonhomme, il ne répond pas, il est sollicité. Pourquoi est-ce qu'il aurait répondu à Dominique Marin? Ben, grâce à Dominique Bondu, j'ai réussi à entrer en contact avec lui. C'est pour ça que je dis que c'est un dieu. Parce que vous le voyez là, vous pouvez le toucher, l'écouter, vous avez l'habitude. On a l'habitude, mais il faut sortir de l'habitude pour faire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pendant des années et tout ce qu'il va continuer à faire. Ben oui. Donc cet intermédiaire entre les hommes et l'intelligence non artificielle m'a permis d'entrer en contact avec Chahi Masson. Il y a un premier entretien qu'on peut trouver directement en ligne parce qu'il a été publié dans une autre revue que l'Enjeu sur le site de mon école de psychanalyse. Parce qu'il faut bien une école pour se disputer avec les autres, sinon comment ?
Dans la cour de récréation.
Dans la cour de récréation. Et l'autre texte, la suite de cet entretien sur l'interprétation, ça a donné lieu à un entretien sur sa pratique à lui de poète. Et là, ça a été publié dans l'Enjeu lacanien et ce n'est pas encore en ligne. Si vous voulez, je vous l'envoie, il suffit de m'envoyer un mail, je vous enverrai le texte. Sinon, il faut aller sur Internet, vous le trouverez, ça coûte 4 euros. Dans cet entretien, Jean-Yves Masson a été troublant, a été troublé. J'en parle encore avec émotion parce qu'il a témoigné de ce qu'était pour lui la pratique, le danger de la pratique poétique, à savoir un retranchement du langage commun, un retranchement du monde pour entrer dans une intériorité qui isole et qui peut être inquiétante. Il a parlé de ça. Alors, l'échange tel qu'il a été restitué, parce que c'était des échanges par email. C'était pour moi assez impressionnant quand je lui posais une question. Alors, il y a l'échange qui est publié, puis il y a la partie de l'échange qui n'est pas publiée. Il me répond, cher Dominique, votre question est embarrassante, je vais marcher, je suis en vacances dans les forêts de Bavière, je vais marcher. Moi je me disais, bon sang, quelle question j'ai dû lui poser pour le mettre dans l'embarras comme ça et l'amener à prendre quelques heures de méditation. Quand il me répondait, j'essayais de lire qu'une fois sa réponse, pour que ça ait la tonalité d'un entretien. Je ne lisais qu'une fois, parce que quand Jean-Yves Masson écrit, il écrit de très longs messages, et donc j'essayais de ne pas lire trop attentivement, et surtout pas de relire, pour lui répondre spontanément sur l'impression que m'avait donné son entretien. Mais c'est un véritable témoignage, un véritable trésor de qualité, d'intelligence, d'humanité, et de profondeur concernant ce qu'est l'écriture. Pascal, mon rapport à moi, dans ma pratique avec la littérature, ouais. C'est ça. J'y suis plus. On n'y est pas. On subit les choses quand on est dans le dispositif. Il n'y a plus de sujet. Je ne peux répondre que ça.
C'est triste.
Ah oui, c'est une pratique triste.
Vous n'attendez pas à cette réponse.
Ah ouais. La poésie, c'est simplement ce qu'il faut essayer d'attraper, c'est la sonorité de ce qui est dit, sans associer à la place de l'autre. On peut l'entendre.
Oui, d'accord, mais vous êtes là. Écoute, je l'entends ou pas. Vous êtes là avec votre monde littéraire intérieur. Il y a des analystes chez qui, d'ailleurs, c'est plus ou moins fourni. Il y a des gens chez qui c'est très enfermant aussi. Leur bibliothèque personnelle ou leur culture personnelle, y compris leur religion personnelle, ça c'est autre chose.
Je suis relativement attentif au fait que quelqu'un me dise par exemple qu'il a un stylo et une plume qu'il écrit de temps en temps. Ça, effectivement. Et il y a quelque chose qui m'a prouvé que j'avais raison. Là, je ne vais pas en parler ici, mais il y a quelque chose qui m'a prouvé que j'avais raison. Bon, allez, on passe la question. Quand vous dites instrumentaliser, que la psychanalyse instrumentalise la littérature, c'est quand elle se sert de la littérature pour prouver ce qu'elle a avancé. Ça, c'est le truc le moins intéressant. C'est le moins intéressant. Après, je vous rejoins. Ce qu'il y a d'intéressant...
Et qui est faux.
Hein?
Oui, c'est le moins intéressant et c'est faux, en plus.
Oui. Oui, et même si c'est vrai, qu'est-ce que ça apporte? Puisqu'on le sait déjà, on n'a pas besoin de la littérature. Quand ça apporte quelque chose de nouveau, c'est bien. Quand ça dérange ce qu'on croit tenir pour assuré, comme dirait Descartes, c'est encore mieux. C'est encore mieux quand ça dérange ce qu'on tenait pour assuré. Moi, c'est ça que j'attends, que je cherche.
Dominique, je ne voudrais pas ouvrir un autre continent, mais si tu peux répondre en deux, trois mots, ça ouvre sur autre chose. Dans ta présentation, tu évoques aussi le fait que tu t'es intéressé et tu as dialogué avec des plasticiens, des peintres.
Ah oui.
Donc la peinture, c'est un tout autre langage, pour le coup. Qu'est-ce que tu dirais en deux, trois mots de ton rapport à la peinture? Ma question est stupide, parce qu'en deux, trois mots, normalement, tu ne peux pas répondre. Mais...
Que la peinture est un langage, elle est façonnée par le langage tout aussi bien que l'œuvre littéraire.
Et tu t'intéresses au même titre, quoi.
Ah, au même titre, à ce que peut nous apprendre quelqu'un par la pratique qui est la sienne. Ce qu'il peut nous apprendre. C'est pas du tout pour interpréter...
Il y a un superbe film brésilien qui s'appelle « Les images de l'inconscient ». Dans un hôpital psychiatrique, ils soignent les malades en les faisant peindre.
Mais ça, c'est un documentaire ou un film de fiction?
Ah, c'est pas un film de fiction, c'est une réalité.
C'est un documentaire, un film documentaire.
Oui, c'est un documentaire.
D'accord.
Et tout le film est basé sur ce que peignent les malades. Et ensuite, les thérapeutes, les psychiatres et autres, vont avec le malade et lui demandent d'interpréter ce qu'ils viennent de peindre. Et très souvent, c'est des voix off, qu'on entend, très souvent, les malades donnent des explications qui ont un sens à des peintures qui, si vous les voyez sans explication, sans commentaire, n'ont pas de sens. Donc la peinture est bien un outil puissant, je pense, pour examiner les profondeurs.
Je posais la question en plus, parce que dans l'Assemblée, il y a plusieurs artistes peintres.
C'est une chose encore différente, c'est encore un continent différent. Mais quand, par exemple, j'ai rencontré Pierre Soulages pour un entretien qui a duré pendant de longues heures, qui a été un petit peu difficile à enclencher, parce que... pour des raisons, parce que je crois qu'il avait eu de mauvaises expériences auparavant, les psychanalystes. Mais là où c'est devenu complètement extraordinaire, c'est quand il a pu lui témoigner de la façon dont ça œuvrait, je dis bien ça œuvrait pour lui, à son insu. Et là, le matin, je me souviendrai parfaitement de ce moment. Il passe la nuit à l'atelier. Il appelle chez lui pour dire qu'il va passer la nuit à l'atelier. Et c'est au matin, quand le jour revient, qu'il découvre ce qu'il a fait. Il a inventé l'outre noir. Mais ça s'est fait, ça ne s'est pas fait dans un mouvement volontaire. Moi, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Chez un sujet, comment est-ce qu'il peut témoigner de ce qu'il découvre pour faire partager cette découverte à d'autres? Puisque je considère que ce qui intéresse les analystes, c'est quand même ça. Hein. C'est pas ce qu'on sait, c'est ce qu'on ne sait pas. Et que ce qu'on ne sait pas, on ne pourra jamais, contrairement à ce que veulent nous faire croire les sciences modernes, nouvelles, et j'ai envie de dire l'idéologie dominante, qu'on va tout savoir de l'humain. Non. La parole, ça échappe. À lire donc, et je crois qu'on en a parlé tout à l'heure avec Dominique Bondu, que Éric Chauvier devrait être programmé l'an prochain. C'est un anthropologue tout à fait étonnant qui propose une psychopathologie du langage commun. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que de parler de migrants? Qu'est-ce que ça veut dire que de parler de migrants? Là où on a des individus en danger de mort, persécutés. Non, ils migrent, c'est comme les migrateurs. Bon, on les accueille pas alors. Et oui, c'est terrible, terrible. Tout ça à cause de l'usage d'un terme qui est presque, à force d'être répété par les médias, ancré dans nos esprits. Et ce ne sont que des migrants. C'est fou. Sortir du langage commun. Là, j'avais les mots sans les choses. Les mots sans les choses. C'est un petit ouvrage qu'avait évoqué implicitement Éric Vuillard quand il était venu ici. Et l'intérêt et le combat de la littérature arts en général, c'est d'œuvrer contre la culture, mais contre la culture. Ça, c'est un mot d'Alain Badiou. Contre la culture établie et étatique. Pardon, excusez-moi.
Non, j'ajoutais simplement, on en a parlé, mais tu n'avais pas vu, on a fait venir il y a 3 semaines, un mois, une romancière qui est assez étonnante, qui s'appelle Noémie Lefebvre. Et justement, elle travaille sur la langue, au fond, étrangère. C'est-à-dire qu'elle reprend sans citer ce qu'a dit Proust. Pour écrire, il faut considérer sa langue maternelle comme une langue étrangère. Si on reste dans l'usage convenu, conventionnel, je dirais presque génétique de la langue, on peut rien faire de la langue. Et elle citait aussi à ce titre-là, elle cite dans son livre, dans un de ses romans, Klemperer, Victor Klemperer, qui est déterminant, qui a écrit ce fameux journal qui est la Lingua Tertiae Imperii, qui est aussi traduit la langue du Troisième Reich. Où il montre comment les nazis ont façonné une langue, ont façonné les pensées, les comportements des gens. Quoi. La langue façonne. Quoi.
Mais c'est-à-dire que dans la langue, il y a une idéologie qui s'insinue à travers les mots et l'évolution des mots. Parce que par exemple, il y avait le mot inspiration, qui a eu plusieurs définitions, en fait, plusieurs variantes. Bon, la première, je crois, était plutôt mystique. Voilà. Et un jour, j'ai assisté, il y a quelques années de ça, avec pas si longtemps, à une réunion, plus orientée vers l'entreprise et le commerce. Et la personne disait, il faut inspirer le client. Quel produit va inspirer le client? Mais inspirer le client, ce n'est pas lui donner justement une idée, une révélation, sans plus-value. C'était qu'est-ce qui pouvait directement, le lien, c'était qu'est-ce qui pouvait déclencher le besoin, le désir. Ce n'était pas de l'inspiration, c'est le mot insidieusement glisse comme ça. Et on peut dire quand même qu'il est vraiment infiltré par l'idéologie de la société. Parce qu'il y a la langue, il y a le vocabulaire.
Oui, mais on peut faire, c'est ce que vous voulez dire, complètement évoluer ou déplacer le sens des mots. Et l'exemple d'inspirer, effectivement, mais ça, c'est tout le langage managérial aujourd'hui qui est repris par les journalistes. Inspirant, c'est un mot très à la mode. Hein. Il faut dire c'est inspirant aujourd'hui. C'est ce que vous dites là, oui. C'est impactant, ça impacte les consciences. Je propose qu'on en reste là parce que je voudrais qu'on l'épuise complètement, ce que tu n'as pas l'air.
Non,
mais
non.
Je vous propose de continuer de façon informelle. Dans la salle là, on vous offre un apéritif, donc vous pouvez discuter avec Dominique Marin et oser lui poser toutes les questions que vous n'avez pas osé poser en public. Voilà, et on te remercie infiniment.
C'est moi.
Merci à toi.